Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Parti de Hendaye, Jean-Christophe Ruffin arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle au bout de 800 km de marche. Dans la basilique, il assiste à la messe des pèlerins. Je réussis à me caler derrière une large colonne qui me bouchait la vue, mais en me contorsionnant, je pouvais apercevoir le chœur. Je remarquais dans la foule restée debout plusieurs visages croisés sur le chemin, en particulier mon haut savoyard, miraculeusement arrivé à bon port. Enfin, le tonnerre des orgues retentit. Commença alors une messe grandiose, coloré par des lectures en diverses langues européennes. Des chants puissants étaient amorcés par une religieuse à la voix d'ange et repris par la foule dans une unité dont on ne l'aurait pas cru capable. Enfin, car j'avais décidément beaucoup de chance, j'assistais au fameux allumage du Botafumeiro. Il s'agit d'un encensoir géant, grosse marmite d'argent suspendu par une immense corde au plafond de la basilique. Rempli de myrrhe et d'encens, puis allumé, l'énorme encensoir se met à fumer comme un feu de brousse. 6 hommes s'emploient alors à lui imprimer un mouvement de balancier. La boule fumante va et vient dans le transept à une vitesse, paraît-il, de 60 km à l'heure, répandant ses fragrances dans toute l'église. Au moment où il prend son envol, la religieuse entonne un cantique qui déchaîne l'enthousiasme de l'assistance. Le spectacle est parfaitement au point, après des siècles de réglages, et le moment est intense. Quand le Botafumeiro reprend sa place et que le cantique s'achève, la multitude retombe, épuisée, vidée de ses humeurs, convaincue d'avoir vécu un grand moment. C'est véritablement la fin du pèlerinage. Un Italien avec qui j'ai discuté en sortant de la cérémonie m'a livré un détail qui aurait pu rompre le charme. Il m'a raconté que, selon lui, la coutume du Botafumeiro n'était pas religieuse, mais plutôt sanitaire. Au Moyen Âge, les pèlerins, malgré leur passage à Lavacolla, étaient dans un tel état de crasse que la basilique remplie de ses corps malpropres était littéralement irrespirable. Les curés, pour survivre, n'avaient trouvé qu'une solution, balancer dans les airs un tonneau d'encens. Loin de me dégoûter de cette cérémonie, cette anecdote a, au contraire, réconcilié en moi les deux réalités jusque-là incompatibles, le faste de la liturgie chrétienne et la primitive simplicité du chemin. L'encens et la pourpre rejoignaient ainsi la sueur et la boue grise. Le fil n'était pas rompu, car tout concourt à le rompre dès lors qu'on est arrivé. Les charmes et les beautés de Compostelle ensevelissent les souvenirs du chemin. Le corps reprend sa nonchalance urbaine, on traîne dans les ruelles et bientôt, on se surprend même à acheter des souvenirs. Puis c'est l'avion qui vous catapulte hors du sanctuaire et vous jette en quelques heures dans votre décor familier. On s'était dit, en marchant le long des routes, que l'on ne pourrait plus jamais circuler en voiture sans se mettre à la place de ceux qui font le même chemin à pied. Mais, sitôt installé à un volant, on oublie ses engagements et l'on file à grande vitesse, sans état d'âme. Certains aspects du chemin sont un peu plus durables. Pour moi, ce fut surtout la philosophie de la mochila. Pendant plusieurs mois après mon retour, j'ai étendu la réflexion sur mes peurs à toute ma vie. J'ai examiné avec froideur ce que, littéralement, je porte sur le dos. J'ai éliminé beaucoup d'objets, de projets, de contraintes. J'ai essayé de m'alléger et de pouvoir soulever avec moins d'effort la mochila de mon existence. Mais cela aussi a passé. La page s'est peu à peu tournée et les angoisses du chemin ont disparu. L'effet perceptible du pèlerinage s'efface vite. En quelques semaines, tout a disparu. La vie a repris. Rien ne semble avoir changé. Bien sûr, à certains indices, on comprend qu'il travaille toujours en profondeur. Ce n'est sans doute pas un hasard si, en rentrant, j'ai écrit l'histoire de Jacques Coeur. Sa maison natale est située sur un des chemins de Santiago, et il a passé son enfance à voir défiler des jacquets. Prénommé Jacques lui-même, il a ardemment souhaité faire le pèlerinage, même si la vie ne lui en a pas donné le loisir. En suivant sa belle existence, à travers les chemins de son Moyen-Âge, j'ai eu un peu le sentiment de reprendre la mochila pour un nouveau voyage au pas de l'écriture. Jacques Coeur, comme les pèlerins de Compostelle, apprend à connaître la liberté en perdant tout. Et comme il avait auparavant tout acquis, argent, pouvoir, luxe, cette oblation radicale confère à son destin une grandeur particulière qui n'est pas étrangère à l'esprit du chemin. Tout cela, cependant, reste indirect, une vague influence. Le pèlerinage en lui-même n'est bientôt plus devenu pour moi qu'un lointain souvenir. La liqueur philosophique qui en était sortie et que j'avais recueillie goutte à goutte en écrivant « Le Grand Coeur » me semblait avoir été produite par écrasement de tous les instants particuliers qui avaient composé le voyage. En somme, il ne me restait du chemin qu'un enseignement essentiel et assez vague. Il est enivrant, précieux, mais j'aurais du mal à le définir. Je crus avoir tout oublié. Et puis, un jour de neige à Chamonix, j'ai parlé de mon pèlerinage avec deux éditeurs amis au cours d'un déjeuner. Passionnés de montagne, Marie-Christine Guérin et Christophe Reyla, qui animent les éditions Guérin, se sont intéressés à mon voyage et m'ont posé les 1000 questions qu'ils adressent aux alpinistes qui rentrent de course. Je leur ai répondu avec le même naturel et de nombreuses anecdotes me sont revenues. C'était une de ces conversations de montagne que provoquent le vin blanc et la chaleur d'un chalet, surtout s'il gèle dehors. Quand, à la fin du repas, mes interlocuteurs m'ont encouragé à rédiger ces souvenirs, j'ai accueilli leurs propositions avec indignation. Je n'avais pas fait ce chemin pour le raconter. Je n'avais rien écrit, ni sur le chemin ni au retour. Je voulais tout vivre sans aucun recul, sans la contrainte de rendre des comptes, fût-ce pour moi-même. Et lorsque je voyais à chaque étape des pèlerins prendre fébrilement des notes, je les plaignais. Mais voilà que dans cet hiver particulièrement glacial, dans le paysage blanc que je traversais ce jour-là pour rentrer chez moi, je voyais revenir à moi des images de ciel éclatant et de sentiers boueux, d'ermitas solitaires et de côtes battues par les vagues. Dans la prison de la mémoire, le chemin s'éveillait, cognait au mur, m'appelait. Je commençais à y penser, à écrire, et en tirant le fil, tout est venu. Rien n'avait disparu. C'est une erreur ou une commodité de penser qu'un tel voyage n'est qu'un voyage et que l'on peut l'oublier, le ranger dans une case. Je ne saurais pas expliquer en quoi le chemin agit et ce qu'il représente vraiment. Je sais seulement qu'il est vivant et qu'on ne peut rien en raconter sauf le tout, comme je m'y suis employée. Mais même comme cela, l'essentiel manque et je le sais. C'est bien pour cela que d'ici peu, je vais reprendre la route. Et vous aussi.
C'était Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions de Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.